RCF.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bienvenue sur Les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte de la philosophie. La semaine dernière, nous avons parlé du Criton de Platon. Alors, pour continuer à dialoguer avec Platon, nous vous proposons, dans cette émission, et comme en contrepoint dans le sens musical du terme, d'écouter la suite de la chronique de Daniel Moise, qui avait été diffusée pour la première fois le 22 mars 2017 dans l'émission Les Neveux de René. Cette chronique est diffusée sur le site philosophie.tv, alors philosophie au pluriel avec un S à la fin, .tv, et nous remercions Daniel Moise et Bruno Vinzal pour nous avoir autorisé à diffuser cette chronique, ou du moins des parties d'une longue chronique qui dure 1h30. Et dans cette chronique, qui s'appelle « Tous pris dans le phénomène du nihilisme », Daniel Moise part de la question du terrorisme. Elle décortique une phrase que l'on trouve dans la propagande du djihadisme international, qui est « Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie ». Et partant de là, Daniel Moise questionne que signifie aimer la vie, que signifie aimer la mort. Alors, le premier questionnement est un questionnement avec un éclairage historique, mais l'éclairage historique doit nous faire voir le fond métaphysique de cette question. Et c'est cela que nous vous proposons d'écouter dans cette émission, et voir le rapport entre cette question-là, qui est une question actuelle, qui évidemment configure la politique actuelle, hein, la question de la sécurité et la question du terrorisme, et montrer comme quoi ce n'est pas qu'une question historique, que ce n'est pas qu'une question de civilisation, mais qu'il y a un fond métaphysique, c'est-à-dire philosophique, qui se joue là-dessous. Et partant de cette phrase « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie hein, », donc une phrase de propagande, Daniel Moise nous invite à examiner ce que Nietzsche a à nous dire de cette phrase. Qu'est-ce qu'il nous aurait dit si Nietzsche était là? Et c'est ça que va suivre dans les 20 minutes qui vont suivre, que nous vous invitons à écouter. À première vue, les choses peuvent paraître assez éloignées, mais petit à petit, si on fait cet effort d'écoute, va se dégager évidemment un lien fort avec Platon, puisque Nietzsche est en dialogue direct avec Platon, son but étant de retourner le platonisme, mais aussi pour les auditeurs qui nous auraient suivis dans les chroniques avec Camus, la question du vide de sens, de l'absence de sens, la question de l'absurde et la question du nihilisme avaient été aussi discutées avec Camus. Voilà. Donc nous essayons de faire ressortir les mécanismes profonds de notre temps à travers une analyse philosophique. C'est à cela que nous vous invitons en écoutant la seconde partie de cette chronique diffusée par Daniel Moise. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de diffuser cette chronique. Bonne écoute à toutes et à tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour continuer le dialogue avec Platon et avec le Criton.
L'opposition, hein, dans notre fameuse phrase, hein, donc, que je vous relis pour qu'on voit bien qu'on parle de quoi on parle. Moi, la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. Donc, vous voyez, il y a une espèce de façon de revendiquer, c'est très étrange d'ailleurs, hein, c'est extrêmement étrange, hein, de dire que finalement, le fait d'aimer la vie est devenu un signe négatif. Le fait d'aimer la vie pour ces terroristes est un signe de lâcheté. Vous voyez, on revient à cette question, hein, du courage. Et là, évidemment, on voit bien qu'on a franchi un pas extrêmement déterminé dans le sens de la dévastation. L'amour de la vie devient une accusation. Hein, moi, j'aime la mort, je l'aime comme vous, vous aimez la vie. Mais en réalité, bien sûr, hein, il y a un pas franchi qui est incontestable. Néanmoins, il faut essayer de voir que ce phénomène qui relève évidemment d'une perversion profonde du sens réel de la spiritualité trouve son origine au cœur même de notre histoire. Les deux penseurs qui ont essayé d'analyser, de mettre en lumière le phénomène du nihilisme et d'essayer d'en identifier les racines, ce sont Nietzsche et Heidegger. Et on va essayer de voir, à propos de ces, avec ces deux penseurs, comment, en réalité, justement, cette espèce de fascination pour la mort, qui est le propre de nos actuels combattants de la mort, trouve son origine dans un phénomène qui est bien antérieur, bien entendu sur le plan historique, comme je viens de le rappeler, mais il a fallu, pour que ce plan historique, si j'ose dire, se mette en place, il a fallu une certaine disposition face à l'ensemble de ce qui est pour que la chose devienne possible. C'est ce qu'essaye d'expliquer Nietzsche dans de nombreux de ses livres, hein, mais en particulier dans ce texte que je lis depuis un certain nombre d'années. Avant l'enregistrement, Bruno Vinzal me faisait remarquer qu'il n'était pas dans un état extrêmement neuf, « Le crépuscule des idoles ». Ce texte est un texte tout à fait impressionnant dans lequel Nietzsche essaye de mettre au jour, de faire apparaître le phénomène du nihilisme. À quoi est dû ce phénomène ? Et il apparaît, du côté de Nietzsche comme du côté de Heidegger, dont je parlerai après, que c'est une perversion profonde du sens de la spiritualité qui en est l'origine et qui est, paradoxalement, si j'ose dire, le moteur même de notre histoire. Il a fallu une distorsion initiale à l'origine de notre histoire pour que on en arrive à quelque chose où, au terme du phénomène en question, on finit par voir dans l'amour de la vie, on peut éventuellement finir par voir dans l'amour de la vie quelque chose qui est négatif. Alors que la fascination pour la mort, dont j'ai parlé tout à l'heure, devient le signe du courage. D'où cela peut-il bien venir ? Prenons le texte de Nietzsche. Ce qui est très très important de voir dans le texte de Nietzsche, c'est que la perversion du sens de la spiritualité, Nietzsche ne l'attribue pas du tout à la religion. Non, il l'attribue à la philosophie. La première grande figure du nihilisme aux yeux de Nietzsche, c'est Socrate. Alors vous voyez, c'est très intéressant par rapport aux considérations de tout à l'heure, parce qu'on voit très très bien, je vais vous lire évidemment le texte concernant ce qu'il appelle le problème de Socrate. Je vais vous lire ce texte, mais par rapport à la question du suicide. On peut tout à fait se demander à propos de Socrate, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il meure ? Est-ce que... Alors évidemment, il y a quelque chose d'impressionnant chez cet homme qui dit « Je ne quitterai pas Athènes, je vais mourir, j'ai le choix entre l'exil et la mort, c'est la mort que je choisis. » Et Nietzsche va y voir précisément, non pas lui déjà, vous voyez, il était méfiant, Nietzsche. Il ne va pas y voir un signe forcément de courage, hein. Pour ma part, je serais beaucoup plus réservée. Mais de fait, il nous met en garde, hein, et il nous dit que peut-être Socrate en avait assez. Je vous lis ce texte qui est au début du Crépuscule des idoles. Pourquoi le Crépuscule des idoles, au fait ? Je vous en dis quand même un mot. Crépuscule des idoles, en référence au Crépuscule des dieux de Wagner. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tout ce qu'on a cru être des dieux s'est révélé au bout du compte, montre Nietzsche, des idoles. Donc, crépuscule des idoles, et ces idoles, sortir du nihilisme pour Nietzsche, ce serait sortir de ce phénomène d'idolâtrie. Très impressionnant. Et alors, on attendrait évidemment des fanatiques religieux, comme mentionné, comme source ou comme origine de ce nihilisme, et bien patatras, on trouve d'abord comme titre « Le problème de Socrate ». Titre qu'il faut entendre en un double sens, c'est le problème que nous pose Socrate, le problème qu'est Socrate, et le problème de Socrate vis-à-vis de lui-même, le problème de Socrate, donc double sens. « De tous les temps, dit Nietzsche, les plus grands sages ont porté le même jugement sur la vie, elle n'a aucune valeur. » Et alors là, elle prend un coup, l'affirmation de nos combattants de la mort. Hein, vous aimez la vie, ce que dit Nietzsche, c'est que dès le début de notre histoire, il y a quelque chose qui cloche et que le jugement des sages a été « la vie n'a aucune valeur ». C'est la haine de la vie qui serait le moteur de notre histoire. Là, on tombe des nues. Partout et toujours, ce qu'ils en disent a le même accent, un accent de doute, de mélancolie, de lassitude de vivre, de résistance à la vie. Socrate lui-même a dit au moment de mourir, « la vie n'est qu'une longue maladie ». Socrate lui-même en avait assez. Qu'est-ce que cela démontre? Qu'est-ce que cela montre? Autrefois, on aurait dit, on l'a dit assez fort, nos pessimistes les premiers. Les pessimistes, c'est une pierre dans le jardin de Schopenhauer, philosophe du pessimisme. Il doit pourtant y avoir quelque chose de vrai dans tout cela. Le consensus le consensus des sages prouve la vérité. Dirions-nous de même aujourd'hui? En avons-nous le droit? Il doit pourtant y avoir quelque chose de malade dans tout cela. Telle est notre réponse, on aurait envie de dire, tel est notre diagnostic. Ces plus grands sages de tous les temps, il faudrait les voir de près. Peut-être n'étaient-ils plus ni les uns ni les autres très fermes sur leurs jambes. Peut-être un type tardif, vacillant, décadent. Peut-être la sagesse n'apparaît-elle sur terre que sous la forme d'un corbeau qu'excite un discret relent de charogne. Alors là, je crois que si nos malheureux fanatiques, je dis malheureux parce que évidemment ils sont victimes d'une captation de conscience, comme le montre assez justement le film Le ciel attendra, qui est actuellement sur les ondes, on voit très bien que les jeunes gens sont capturés. Évidemment, nul d'entre eux, s'il avait compris cela, ne pourrait dire que nous aimons la vie tandis qu'ils aiment la mort. Cela signifie, dans cette perspective, que l'islam, qui, comme vous le savez, est né après le début de la métaphysique et après le christianisme, est bien pris dans cette histoire où Nietzsche n'en parle pas du tout. Ici, évidemment, il ne peut pas imaginer ce qui se produit exactement aujourd'hui. Mais voyez comment le phénomène de ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est incroyablement éclairé par ce diagnostic complètement inattendu. Nous, on voit Socrate, le début, le commencement de la grande histoire de l'Occident. Nietzsche voit le commencement du nihilisme. Par quoi ça se manifeste? Alors, il a dit il aimait par la vie, il a dit au moment de mourir, la vie n'est qu'une longue maladie. Mais il va donner quand même plusieurs petites précisions. Évidemment, je ne peux pas m'attarder à toutes, il faudrait des mois. Vous voyez que moi-même, j'ai beaucoup consulté ce livre pour essayer d'y comprendre quelque chose. Dans le chapitre intitulé « La morale, une antinature », parmi les idoles, la morale telle qu'elle est comprise par l'Occident, et notamment par la philosophie de Kant en particulier, dans l'analyse de Nietzsche. Il parle dans le premier paragraphe des passions, et il essaye de mettre en lumière que le traitement infligé par la sagesse, par la philosophie, par la morale aux passions est un traitement nihiliste, c'est-à-dire non pas du tout qui va dans le sens de la vie, mais qui va dans le sens de la condamnation de la vie. Je lis. « Toutes les passions ont un temps où elles ne sont que funestes, où, de tout le poids de la bêtise, elles tirent leurs victimes vers le bas, et un autre, plus tardif, beaucoup plus tardif, où elle se marie avec l'esprit, se spiritualise. » Et c'est ça qu'on manque, c'est ça qu'on va manquer. Le moment où elle se spiritualise, alors pourquoi on va le manquer? Je lis. « Jadis, à cause de la bêtise contenue dans la passion, » alors c'est vrai que la passion peut être aveugle, complètement obnubilée, complètement fanatique justement, c'est ce que disait Alain tout à l'heure. « Jadis, à cause de la bêtise contenue dans la passion, on faisait la guerre à la passion même, on jurait sa perte. » Tous les monstres moralisants sont unanimes, il faut tuer les passions. La formule la plus célèbre se trouve dans le Nouveau Testament, dans ce sermon sur la montagne où, par parenthèse, les choses ne sont nullement vues de haut. Il y est par exemple dit, ceci s'appliquant à la sexualité, si ton œil est pour toi une occasion de faute, arrache-le. Fort heureusement, dit Nietzsche avec humour, aucun chrétien n'agit selon ce précepte. Extirper les passions et les appétits uniquement pour prévenir leurs bêtises ou les fâcheuses conséquences de leurs bêtises, voilà qui, aujourd'hui, nous paraît n'être qu'une forme aiguë de bêtise. Nous n'admirons plus les dentistes qui arrachent les dents afin qu'elles ne fassent plus mal. Il faut d'ailleurs reconnaître que sur le sol où le christianisme s'est développé, le sol de l'Occident évidemment, l'idée même d'une spiritualisation de la passion ne pouvait seulement être conçue. L'Église primitive, c'est bien connu, luttait contre les intelligents en faveur des pauvres en esprit. Je ne m'attarderai pas à ça. Comment aurait-on pu attendre d'elle une guerre intelligente contre la passion ? L'Église combat la passion en la coupant, dans tous les sens du terme. Sa pratique, son traitement, c'est le castratisme. Elle ne demande jamais comment peut-on spiritualiser. C'est ça qui irait dans le sens de la vie. Embellir, diviniser un appétit. De tout temps, dans sa discipline, elle a mis l'accent sur l'extirpation de la sensualité, de l'orgueil, de la volonté de dominer, de la cupidité, du désir de vengeance. Vous voyez, c'est absolument passionnant, parce que Nietzsche a l'air de dire que de tout ça, on pourrait faire quelque chose si c'était bien approché. Hein, vous voyez ? Alors que la manière dont l'ensemble de l'Occident, alors vous avez bien compris qu'on est passé de la philosophie au christianisme, dans le mouvement du texte, le sens de la lutte contre tout ce qui est négatif, on va dire, a été une solution de radicalité qui est hostile à la vie. Attaquer les passions à la racine, dit Nietzsche, cela revient à attaquer la vie à la racine. La praxis de l'Église est hostile à la vie. Texte très, très, très impressionnant, qui évidemment nous invite à nous demander ce que ce serait qu'un véritable amour pour la vie, pour le coup. Ce ne serait pas de rejeter ce qui est négatif, mais précisément de l'apprivoiser, d'arriver à composer avec les passions, non pas de leur laisser un libre cours absolu. Pas du tout, c'est pas de cela qu'il s'agit, mais le véritable sens de la vie, ce serait un apprivoisement des passions. Le problème, c'est ce qui apparaît dans le tableau, si j'ose dire, récapitulatif, que Nietzsche, dans une page assez, à la fois un peu schématique, mais tout de même fulgurante, résume l'histoire même du nihilisme. Il en résume les étapes. Vous voyez, ça fait deux pages. Vous avez le résumé de l'histoire du nihilisme. Quelles sont ces étapes ? Alors, quel est le titre de ce texte ? C'est « Comment, pour finir, le monde vrai, entre guillemets, devint une fable ?» Pourquoi c'est si difficile de proposer la lutte intelligente contre les passions dont parle Nietzsche ? Parce que, à l'origine de notre histoire, s'est produit une déchirure. La séparation entre ce que Platon, ou en tout cas le platonisme, il faudrait évidemment nuancer, mais c'est évidemment la condamnation beaucoup plus du platonisme que de Platon lui-même, sans doute, si on lisait vraiment les textes de Platon, que fait Nietzsche si l'on était véritablement de fin lecteur, allons-nous dire. Mais il se trouve que peut-être que le platonisme, en retenant principalement de Platon une opposition radicale entre le monde vrai, encore appelé le monde intelligible, et le monde faux, si j'ose dire, c'est-à-dire le monde sensible, est l'origine, le cœur même, de ce mouvement dans lequel nous sommes pris, philosophie, christianisme, et évidemment islam, si l'on voulait un peu écrire une page suivante au crépuscule des idoles, de Nietzsche. Nous sommes tous pris dans ce phénomène de déchirement qui fait que la passion est forcément mauvaise et on doit donc lutter avec elle, avec les armes de la plus grande violence, hein, et donc rejeter les passions. Donc voilà les étapes, je ne vais pas commenter en détail, ce serait beaucoup trop long. Première étape du nihilisme. Donc il commence son tableau un petit peu après Socrate. Le monde vrai, accessible à l'homme sage, pieux, vertueux. Il vit en lui, il est ce monde. Forme la plus ancienne de l'idée, relativement habile, simplette, convaincante. Paraphrase de la formule « Moi, Platon, je suis la vérité ». Donc, on voit évidemment le côté très corrosif de la manière d'écrire de Nietzsche. Donc la première étape, c'est le moment de ce déchirement, le moment d'apparition de ce monde vrai. Vous ne pouvez pas voir la manière dont c'est la graphie. Vous ne pouvez pas le voir, et dans les premières strophes, donc première étape, le monde vrai n'est pas encore entre guillemets. Le titre, lui, le monde vrai, est entre guillemets. Mais là, à l'époque, Platon ne fait qu'un avec son monde vrai. Donc, il a encore une véritable efficacité, donc il est accessible à l'homme sage. Deuxième étape, et voilà, c'est le christianisme. Le monde vrai, inaccessible maintenant, mais promis à l'homme sage, pieux, vertueux, au pécheur qui fait pénitence, parenthèse, progrès de l'idée. Elle s'affine, devient plus captieuse, plus insaisissable, elle devient femme, elle devient chrétienne. On passera sur le remarque « elle devient femme », et ce que ça implique vis-à-vis de la philosophie de Nietzsche, mais elle devient chrétienne. Donc deuxième étape, donc le monde vrai n'est plus véritablement accessible, il est une promesse. Si on se tient à carreau, en gros, on pourra atteindre un jour ou l'autre ce monde vrai. Troisième étape, c'est celui de la morale. Et vous allez voir comment il en parle. Le monde vrai inaccessible. Vous voyez, d'abord, le monde vrai accessible. Deuxièmement, le monde vrai inaccessible, mais qui est une promesse. Troisièmement, le monde vrai inaccessible, mais qu'on ne peut ni atteindre, ni prouver, ni promettre, mais qui, du seul fait qu'il est pensé, est consolation. Engagement impératif. Alors évidemment, c'est une allusion très directe à l'impératif catégorique de Kant. Lorsque j'éprouve qu'une chose doit être faite et que cela s'impose à moi de façon inconditionnelle, je laisse sur place toutes les autres motivations qui peuvent être les miennes. Alors, c'est intéressant par rapport au phénomène du fanatisme parce que c'est pareil, là. La frontière entre le sens du devoir, qui est un véritable sens du devoir, et Socrate devait-il mourir, par exemple? Devait-il? C'est d'ailleurs la question que pose le Criton. Est-ce qu'il devait vraiment mourir? C'est une vraie question. Donc on voit bien comment le sens du devoir peut tourner mal. C'est-à-dire que j'éprouve comme mon devoir que si un ordre m'est donné qu'il faut tuer tout le monde pour parvenir à mes fins, bah peut-être. Alors évidemment, c'est pas du tout ça que dit Kant, puisque sa philosophie est pondérée par l'idée qu'il y a un respect absolu qui est dû à la personne humaine. Donc c'est évidemment. À strictement parler, la déviance n'est pas possible. Mais on voit bien qu'effectivement, cette façon de rejoindre le monde vrai par la morale, ça peut aussi être perverti. Donc, entre parenthèses, le vieux soleil au fond, mais traversant le brouillard et le scepticisme, l'idée devient sublime, le sublime de la morale kantienne, diaphane, nordique, königsbergienne. Vous savez que Kant, en effet, enseignait à Königsberg. Quatrième étape, c'est le positivisme. Le monde vrai inaccessible, en tout cas pas encore atteint. Donc vous voyez comment Nietzsche décrit le moment où, dans l'histoire, ce fameux monde vrai perd de son efficacité. Cet autre monde, cet ailleurs par lequel nous définissons systématiquement la spiritualité. Le monde vrai inaccessible, en tout cas pas encore atteint. Et puisque non atteint, inconnu. Ne constitue donc ni une consolation, ni un salut, ni une obligation. En quoi serions-nous engagés par quelque chose que nous ne connaissons pas? Aube grise, premier bâillement de la raison, chant du coq du positivisme. Alors là, la phrase est intéressante parce que le bâillement, ça peut être qu'on a sommeil ou au contraire qu'on se réveille. Peut-être que là, on commence, comme le monde vrai commence à perdre de sa puissance, peut-être qu'on va pouvoir se réveiller et espérer une réunification du monde, du réel, une fin de la déchirure entre l'intelligible et le sensible, entre le monde vrai et le monde de la caverne, si j'ose dire. Cinquième étape. Le monde vrai, et là apparaissent les guillemets. Autrement dit, ça y est, on a compris que le monde vrai n'est pas le monde vrai. Une idée qui ne sert plus à rien, qui n'engage même plus à rien, une idée inutile, superflue, par conséquent une idée réfutée, abolissons-la. Il fait grand jour, petit déjeuner, retour du bon sens et de la gaieté, Platon, le rouge de la honte au front. Tous les esprits libres font un vacarme de tous les diables. Et c'est la fête. Ça y est, on va en finir enfin avec cette réalité intelligible qui nous a pourri l'existence pendant des millénaires, et on va enfin pouvoir peut-être assister à une réunification de l'ensemble du réel. Sixième étape, celle à laquelle Nietzsche lui-même s'identifiait. Nous avons aboli le monde vrai. Quel monde restait-il ? Peut-être celui de l'apparence ? Mais non ! En même temps que le monde vrai, nous avons aussi aboli le monde des apparences. Midi, l'heure de l'ombre la plus courte, fin de la plus longue erreur, apogée de l'humanité, incipit Zarathoustra. Alors pourquoi incipit Zarathoustra ? Puisque Zarathoustra va être le porteur à la fois, je ne vais pas rentrer dans une discussion concernant Zarathoustra, ce serait beaucoup trop long, hein, mais Zarathoustra est à la fois le porteur des anciennes valeurs et celui qui porte, qui annonce ce que Nietzsche va appeler le surhomme, la volonté de puissance, l'éternel retour du même. Nietzsche pense qu'il sort du nihilisme. Heidegger le réintégrera dans l'histoire du nihilisme en pensant que, justement, la volonté de puissance n'est que une manière de poursuivre ce que lui va identifier comme la cause profonde, peut-être encore plus radicale que cette déchirure entre sensible et intelligible, du nihilisme.
Vous étiez sur l'émission Les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des textes classiques de la philosophie. Nous remercions chaleureusement Daniel Moise et Bruno Vinzal pour nous avoir autorisé à diffuser cette chronique. Nous invitons les auditeurs à se rendre sur le site philosophie.tv, philosophie avec un S à la fin, pour écouter l'ensemble de cette chronique de Daniel Moise qui s'intitule « Tous pris dans le phénomène du nihilisme ». Et rendez-vous donc la semaine prochaine pour examiner la suite du Criton. Merci, à la semaine prochaine.